Bon matin à tous. Ça va bien ce matin? Bon, c'est bon de vous voir. C'est une très bonne fin de semaine. Je pense que c'est une très belle fin de semaine pour les amateurs de sport, les amateurs du Canadien, comme notre frère ici qui a son chandail. Deux matchs du Canadien en fin de semaine. On a aussi le Super Bowl en fin de semaine. Ouais, il faut jouer ça. C'est la première fois que je le tire. On a le... Le Super Bowl en fin de semaine. Une belle fin de semaine pour les amateurs de sport. Puis je pense que c'est encore une plus belle fin de semaine, si on va le savoir ce soir, pour les amateurs des Seahawks. Mais ça, c'est autre chose. Mais vous savez, moi, j'aime bien le football. J'ai des amis, on a un pool de football ce soir. On va regarder le match ensemble. On avait hâte à cette soirée-là. À chaque année, on a du bon temps. Mais cette semaine... Un des amis a dit, hey, ça, j'ai vraiment hâte à dimanche. Puis j'ai dit, moi aussi, j'ai hâte à dimanche parce que on commence Régénération 21. Et je sais, pour ça fait quelques semaines qu'on en parle. Il y a deux mois, je pense, quand j'ai entendu cette idée-là pour la première fois, on a reçu un email de Normand qui nous expliquait ce qu'il y avait sur son cœur. Tout de suite, j'ai été excité par ça. J'avais hâte. Et c'est une très belle journée, je pense, pour l'Église Le Sentier. Parce que pendant les 21 prochains jours, on veut se joindre ensemble pour que Dieu fasse un réveil dans notre génération. En commençant par notre vie, et c'est ce qu'on va voir ce matin, notre milieu et notre ville. Est-ce que c'est pas excitant, ça, de dire qu'on s'arrête, qu'on se rassemble ensemble pour prier, pour voir Dieu faire de grandes choses? Et on a le droit de s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu. D'espérer de voir Dieu faire de grandes choses, de s'attendre à lui. Et si c'est ça notre attitude ce matin, mais je pense qu'il y a déjà quelque chose de bien qui commence à se produire dans la vie de cette Église. Parce qu'une des réflexions que j'ai eues dans les dernières semaines, c'était, je préparais le message, je lisais la parole, puis là, dans mes prières, je commençais à demander à Dieu de se manifester, je commençais à demander à Dieu, « Dieu, j'aimerais ça que tu fasses des grandes choses pendant les 21 prochains jours de prière. » Et une des réflexions qui m'est venue en tête, c'était, wow, mais semble que ça fait longtemps que je ne m'étais pas attendu comme ça au Seigneur. Et c'est ce qu'on veut dans notre vie. On veut s'attendre à Dieu, pas juste pendant 21 jours, mais tout au long de notre vie. Mais si c'est ce genre d'attitude qu'on a ce matin, de chercher Dieu et de voir Dieu faire de grandes choses, c'est déjà un bon début. Parce que Dieu cherche des serviteurs humbles qui sont disposés à lui donner le contrôle et à croire qu'il peut faire des miracles. Et comme Norman nous a dit la semaine passée, est-ce que quelqu'un qui se rappelle de la phrase qu'on a répétée, quelqu'un qui veut le dire, tout est possible à celui qui croit. Et ma tâche ce matin, c'est de parler du premier élément qui est de régénérer notre vie. Et je pense que ça serait bon qu'à ce point-ci, on aille dans la prière ensemble et qu'on demande à Dieu de se manifester parmi nous. Seigneur Jésus, on te remercie. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour la vie que tu as donnée pour nous. Si on est ici ce matin, c'est parce que tu as fait quelque chose dans nos vies. Tu nous as interpellés, tu nous as peut-être même transformés, Seigneur. Et on veut s'attendre à toi pour faire de grandes choses. Et on veut te remettre ce temps ce matin ensemble, que tu puisses parler à nos cœurs. On veut te remettre les 21 jours qui s'en viennent, Seigneur, que tu puisses nous révéler des choses dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le jeûne, ensemble en Église, Seigneur. Et on veut s'unir ensemble pour te demander de faire un réveil dans notre génération et de rajouter des âmes perdues, des gens qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile à ton Église. C'est dans ton nom qu'on te prie, Seigneur. Amen. Dernièrement, sur Facebook, il y a eu un événement qui a été créé puis qui m'a rappelé que cette année, en juin, ça va faire 10 ans que j'ai gradué du secondaire. Et vous savez, après 10 ans, je pense, il y a Isabelle qui était avec moi en secondaire 5 à Nicolas Gatineau. Ça fait 10 ans qu'on a gradué du secondaire. Et j'ai eu un événement que il y a des gens qui organisent des retrouvailles cette année en juin. Puis il y en a là-dedans, la plupart en fait, beaucoup de ces gens-là que ça fait 10 ans que j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des retrouvailles? Ben, je peux juste m'imaginer parce que je l'ai pas eu encore, mais il y a sûrement une question qui va être sur toutes les lèvres, qu'on va se demander, qu'est-ce que t'es devenu dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On en fait des choses en 10 ans. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, je suis allé à l'université, j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation, je travaille dans mon église avec la jeunesse. On en fait des choses dans 10 ans. Et une question qu'on va souvent se faire poser aussi quand que on voit quelqu'un pour la première fois en 10 ans, ou que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, ou une personne qu'on voit pour la première fois, la personne va nous demander, une des questions qu'on se demande souvent, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Et quand on était au secondaire 5, avant que toute cette gang-là qui va se rencontrer en juin s'est quittée, ben on était en train de préparer nos projets de vie. Bon, est-ce que je vais aller à l'école après ou est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je veux devenir? Peut-être un avocat, un ingénieur. Moi, je voulais être comptable. Puis je suis le pire. Je fais même pas le budget à la maison. Il me semblait que ça sonnait bien. Mais est-ce que je vais travailler dans la construction? C'est une question qui démontre l'importance de notre travail, de nos professions, de ce qu'on fait. On se pose cette question-là, puis c'est important pour nous. Puis pour des jeunes aussi, quand tu es au secondaire 5, ben, la question, c'est quoi mon avenir? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? C'est quoi mon projet de vie? C'est des questions qui sont importantes, et c'est bien. Mais il y a une réponse un petit peu moins attendue, un petit peu inattendue qu'on pourrait donner à cette question-là. Puis, du moins, je pense que c'est ça que l'apôtre Paul, qui a écrit la lettre aux Philippiens, nous aurait répondu. Je pense que c'est ça qui répond dans cette lettre-là. Paul a dit, mon projet de vie, c'est le progrès de l'Évangile. Et ça ferait peut-être un peu bizarre de dire ça à des gens, mais on veut voir ce matin, avec l'aide de Philippiens 1, 12 à 26, que demander à Dieu de régénérer notre vie, c'est en fait de faire l'Évangile notre projet de vie. Et on va lire ensemble Philippiens 1, 12 à 26. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Et ce matin, on parle de faire de l'Évangile le projet de notre vie, le progrès de l'Évangile, le projet de notre vie. Et regardons premièrement la situation de Paul. Pour comprendre ce qu'on veut dire par l'Évangile, mon projet de vie, allons voir la situation de Paul. Paul écrit une lettre à ses amis, les Philippiens. Les Philippiens sont des personnes importantes pour lui. C'est une église que Paul a implantée. Il aime ces personnes-là. Et là, il leur écrit concernant la raison de son emprisonnement et il témoigne qu'est-ce qu'il vit en prison. La raison pourquoi il est emprisonné, l'Évangile. Il est en prison parce qu'il parle de Jésus. Il n'a pas commis de crime. Il n'a rien fait d'illégal. Pas aux yeux de Dieu, certainement. Non seulement il est en prison, mais certains frères, Paul parle de ceux qui prêchent l'Évangile, le vrai Évangile, avec un esprit de rivalité. Certains frères critiquent Paul pour être en prison. Ils critiquent Paul pour être en prison. Ils prêchent le message de l'Évangile, mais avec un désir de prendre la place de Paul, de profiter de sa détention pour avoir le mérite de leur ministère. Il semble que ces personnes accuseraient Paul d'être en prison à cause que c'est de sa faute à lui, puis que s'il avait bien fait les choses, il ne serait pas en prison. Il est en prison, il est critiqué, et même qu'il dit qu'il est enchaîné, et en plus, il ne sait pas s'il va vivre ou s'il va mourir. Paul attend un procès. Il pourrait être condamné à mort. Il n'a aucune idée de l'issue de sa détention. Et quelle est la réaction de Paul? Parce que le texte nous dit que malgré les chaînes, malgré la critique, malgré l'incertitude de l'issue de sa détention, Paul est dans la joie. Paul se réjouit. Il se réjouit et puis il écrit aux Philippiens, puis il veut que les Philippiens soient encouragés par sa lettre. Paul ne se plaint pas, il abandonne pas, il ne semble même pas douter dans cette situation-là en tout cas. Mais il écrit à ses amis au sujet avec les sujets de reconnaissance qu'il a. Il leur parle de la joie qu'il a dans cette situation-là. C'est une situation qui n'est pas idéale, qui est décourageante, vraiment difficile. Et Paul trouve une occasion de parler de Jésus. Paul trouve une occasion de parler de Jésus à des gens qui sont dans son entourage, en prison. Et on voit même à la fin de sa lettre, il dit que l'Église de Rome, l'Église de Rome vous salue. Et on voit qu'il y a des, il y a même des résultats en prison, parce qu'il y a des gens qui se convertissent. Et Paul parle du fait que les gens, tout le monde où ce qu'il est dans la prison autour de lui, sait que c'est pour l'Évangile qu'il est en prison. Il parle de Jésus. Il annonce l'Évangile. Et Paul souffre, il va même dire plus loin que c'est une grâce de souffrir pour Christ. Mais chaque personne qui vient à la connaissance de Jésus vaut la peine de sa souffrance. Et en plus, il se réjouit parce que sa situation encourage les chrétiens à annoncer l'Évangile. Il persévère dans la souffrance, des gens entendent l'Évangile. Il y a probablement des conversions, puis là, les chrétiens voient ça, les chrétiens entendent ça, ils sont encouragés, et ça leur donne du courage, de l'assurance pour prêcher l'Évangile. Et ça, ça réjouit Paul. Mais comment est-il arrivé à se réjouir dans cette misère? Malgré les circonstances de la vie, il y a tellement de situations dans lesquelles on se trouve et où on voit pas où on voit pas de situation de se réjouir de ce que Dieu fait ou d'occasion de le servir. Juste des quelques exemples, quand on n'a pas la promotion qu'on voudrait avoir, quand on a l'impression que Dieu nous montre sa volonté et juste à la dernière minute, tout d'un coup, il nous montre quelque chose d'autre, c'est pas tout ce qu'on avait dans la tête. Quand la maladie nous frappe, quand on est découragé, quand on a l'impression que Dieu, il va peut-être jamais me donner le mari ou la femme que j'aimerais avoir. Quand je lutte constamment avec un péché sexuel, avec l'orgueil, la colère, la drogue, la paresse, et on peut les nommer, puis il me semble que je lutte constamment, puis c'est décourageant. Qu'est-ce qui rend Paul si heureux dans la détresse, dans les moments difficiles? Eh bien, si Paul est heureux dans cette situation, si il se réjouit de voir le progrès de l'Évangile, s'il continue à désirer voir l'Évangile progresser seulement, c'est seulement parce que Paul voit la vie avec les lunettes de la foi. Il ne sait pas où est-ce que cette situation va le mener. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais être libéré? Je ne sais pas. Mais le texte nous dit, au verset 18, à la fin du verset 18, « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut. » Ce que Paul sait et que seulement le regard de la foi peut lui montrer, c'est que peu importe l'issue de sa détention, il n'y a rien, absolument rien, qui va lui arriver. L'aboutissement de la vie de Paul, c'est son salut. Il va passer l'éternité avec son Sauveur. C'est la situation de Paul qui, à nos yeux humains, aux yeux de chaque être humain, c'est une situation désastreuse où probablement sa vie en dépend. Il va probablement mourir, mais pour Paul, qui voit sa situation avec un regard de la foi, c'est un win-win. Il peut pas perdre. Il peut même pas être humilié parce que l'issue de sa vie est déterminée. Et ce qu'on voit par la suite, c'est que cette certitude-là, cette certitude-là augmente son affection pour Jésus et sa mission. Paul dit, « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. » Ce passage nous enseigne que Jésus est l'affection première de Paul. Paul dit, j'aime tellement Jésus que je vais mourir pour lui. Je lui donne ma vie. Si ça veut dire que je vais mourir ou vivre, ça ne fait pas de différence. Et puis l'idée de regarder dans l'histoire de Paul, c'est pas de s'évaluer ce matin, d'évaluer notre niveau d'engagement, le comparer avec Paul, puis de se dire bah je suis pas bon, puis de toute façon j'ai jamais eu de preuves de violence physique à cause de ma foi, donc Paul était tellement meilleur chrétien que moi, je pourrais jamais être comme ça. Non, la raison pourquoi qu'on regarde l'histoire de Paul, c'est qu'on veut se poser la question, mais qu'est-ce qui donne autant d'assurance à cet homme-là? On veut certainement réfléchir à sa motivation pour faire de l'Évangile son projet de vie. Et on peut certainement voir la réponse dans le chapitre 2, les versets 5 à 11. Où est-ce qu'on peut lire? Paul encore qui parle aux Philippiens qui dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si Paul peut avoir autant d'assurance, si Paul a tant d'affection pour Jésus, c'est parce que Jésus a fait son projet de vie l'Évangile. Jésus a quitté son trône éternel. Jésus a quitté, son immortalité. Il a accepté de devenir sous la forme d'un homme limité par le temps, la fatigue, la peur. Jésus qui est Dieu, il a fait la preuve ultime d'humilité. Il a fait ce que personne ne pouvait faire. Voyez ce matin, ce qu'on voit par l'exemple de Paul, c'est que Paul était engagé à 100% pour l'Évangile. On voit ce matin que de demander à Dieu de nous régénérer, qui est de faire de l'Évangile notre projet de vie, ça veut dire d'être engagé à 100% pour la cause de l'Évangile. Mais la seule raison pour laquelle que ça c'est possible pour Paul, et pour nous, c'est parce que Jésus s'est engagé à 100% pour l'Évangile. En mourant la plus humiliante et la plus atroce des morts, en ressuscitant des morts, il est la bonne nouvelle. Il est le moyen pour être réconcilié avec lui. Jésus est la motivation de Paul. Il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui va croire. Il donne la force, la volonté. Paul est convaincu que Jésus-Christ est le Seigneur. Et c'est cette certitude, cette affection pour Jésus qui lui donne le regard de la foi et qui lui permet de vivre pour lui. Un autre exemple dans la Bible que j'ai entendu la semaine passée à la retraite des aspirants, on avait vu ça aussi à la jeunesse, je crois, cette année. C'est Ésaïe 6, 3 à 8. Où est-ce qu'Ésaïe a une vision, il voit des anges qui sont là dans les premiers versets, où il décrit qu'il voit les anges et il entend les anges crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. » Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel. À l'aide de pincettes, il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et ce qu'on voit dans ce passage jusqu'à maintenant, c'est Ésaïe qui, au regard de Dieu, au regard de la sainteté de Dieu, est convaincu qu'il va mourir à cause que lui, c'est un pécheur. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'il est puissamment pardonné par la grâce de Dieu. Ou est-ce que par l'action de l'ange qui vient mettre quelque chose sur ses lèvres, il dit, ton péché, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Et devant cette réponse, devant cette ampleur de la grâce de Dieu, Ésaïe était convaincu qu'il allait mourir et tout d'un coup, Dieu me sauve la vie, Dieu me fait grâce. Ésaïe entend une question. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Et Ésaïe a répondu, moi j'y vais. Parce que Ésaïe a été en contact avec la grâce, avec l'amour de Dieu. Le texte ne nous dit pas qu'Ésaïe a tout fait pour avoir l'attention de Dieu, mais au contraire, Dieu a démontré son amour. Dieu a démontré sa grâce à Ésaïe. Et c'est la réponse du cœur d'Ésaïe qui dit, moi Seigneur, envoie-moi. Moi je vais faire tout ce que tu me demandes. Je suis prêt. La réponse d'Ésaïe démontre la dynamique de ce que la grâce de Dieu fait dans nos vies. Envoie-moi, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, envoie-moi. Moi, je veux vivre pour toi. Ésaïe était plein d'affection pour Dieu. Et la réalité, c'est que parfois, on enlève les lunettes de la foi. Notre affection pour l'Évangile diminue et pour autre chose augmente. Et c'est probablement le combat de nos vies. Et c'est ça que la Bible appelle les désirs de la chair ou l'idolâtrie, les idoles. Et Tim Keller, un auteur pasteur américain, a écrit un livre sur les idoles et il définit l'idolâtrie comme ceci. Tout ce qui est plus important pour toi que Dieu. Tout ce qui absorbe tes pensées et ton imagination plus que Dieu. Tout ce que tu poursuis pour te donner, ce que seulement Dieu peut te donner. Une idole, c'est tout ce qui est si central dans ta vie que si tu le perdais, tu serais vraiment malheureux ou bien ta vie n'aurait plus de sens. Une idole contrôle tellement nos cœurs que nous pouvons y dépenser notre argent, notre énergie sans qu'on y pense. Elle va nous rendre passionnés et nos émotions vont se laisser guider par elle. Une idole, ça peut être c'est même souvent de très bonnes choses qui deviennent trop importantes. Ça peut être notre famille, nos enfants, notre carrière, notre réputation, le plaisir, ce que les autres vont penser de moi. Par exemple, si j'ai plus de pouvoir, je vais contrôler ma vie. Mon travail et mon argent vont m'apporter plus de liberté. Le plaisir va me satisfaire. Ce sont nos affections qui c'est ça qui prend la place de Dieu dans nos vies. Souvent, c'est ça qui devient nos projets de vie, qui nous empêche de faire l'Évangile notre projet de vie. Et c'est difficile parce que c'est des choses qui sont autour de nous, et c'est des bonnes choses, mais qu'on élève, en lesquelles on met beaucoup d'espoir. Puis, la manière qu'on va réagir aux circonstances de nos vies, aux moments difficiles, vont dépendre de nos affections. Imaginons-nous si Paul aspirait à la liberté, ou à la libre expression, ou au confort. Ça prend une force surnaturelle, une affection ultime de la personne de Jésus pour accepter de faire aucun cas de notre vie et de nous réjouir du progrès de l'Évangile, malgré les situations difficiles. Keller commence son livre en relatant des histoires de plusieurs hommes d'affaires prospères qui se sont suicidés suite à la crise économique qui a commencé en 2008. Il parle d'hommes prospères, riches, qui rendaient d'autres personnes riches avec leur talent. Et quand ils ont perdu ça, quand ils ont perdu beaucoup d'argent, plusieurs de ces hommes ne savaient plus quoi faire de leur vie, ils se sont suicidés. Les affections de nos cœurs, les idoles, sont des obstacles dans nos vies pour qu'on puisse voir la vie avec le regard de la foi et désirer voir l'Évangile progresser. La réalité, c'est que quand je rencontre Jésus, quand je réalise ou je me rappelle ou je me plonge dans la grandeur, dans la beauté de ce qu'il a fait pour moi, toutes mes aspirations vont changer. Ma vision des choses va changer. Mon amour pour Jésus va augmenter. Mon amour pour sa mission va augmenter. Mes circonstances ne seront pas la fin. Non, parce que je sais que peu importe ce qui va m'arriver, j'ai gagné à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Quand Jésus est au centre de ma vie, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important. Mais ça veut dire que je ne vais pas chercher le sens de ma vie dans ces choses qui ne peuvent pas me donner ce sens-là. Et tout à coup, ma perspective de pourquoi je fais les choses change. Mes relations changent. Mon amour pour les âmes perdues change. Elle augmente. Et ce que Jésus veut, et ce que Jésus a fait, c'est qu'il cherche notre attention. Il veut changer nos aspirations et faire de lui ce qu'on possède de plus précieux. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile fait ça, elle change nos aspirations. Elle diminue notre affection pour les idoles. Elle augmente notre affection pour Jésus et sa mission. Cette réalité nous amène à désirer le progrès de l'Évangile dans nos vies. Et c'est ça qui est le mot-clé ici, au verset 25. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Le mot progrès, c'est un mot qu'on se servait pour quand on parlait de défricher un nouveau territoire. On servait de ce mot-là lorsque les explorateurs ils taillaient un chemin vers, des fois comme un bois très dense, ils progressaient. Et Paul dit, voyez-vous, au lieu de nuire à mon ministère et de limiter mes circonstances, ont contribué au progrès de l'Évangile. Mais ce que Paul veut aussi dire au verset 25, c'est que l'Évangile peut faire du progrès dans nos vies. Dieu veut défricher un nouveau territoire dans notre cœur. Dieu, il n'opère pas le changement. Quand on parle de régénérer ma vie, on peut entendre par là, viens changer ma vie, viens renouveler ma vie, viens changer mes aspirations pour les faire grandir en toi. Mais Dieu n'opère pas ce changement pareil dans la vie de tous. Et on doit être patient et toujours s'attendre à ce que Dieu va opérer du changement. Et comment pouvons-nous prier pour ce progrès? On peut demander à Dieu de faire grandir, comme on a vu, et c'est qu'on a besoin de retourner constamment, même si ça fait 5, 10, 15, 20, 25 ans qu'on est chrétien, on a toujours besoin de retourner à l'Évangile, de considérer ce que Jésus fait pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Et on doit demander à Jésus de faire grandir la réalité de ce qu'il a fait pour nous. Qu'on puisse comprendre davantage ce qu'il a fait pour nous. Demander à Dieu d'avoir le regard de la foi dans toutes les circonstances de notre vie, quand ça va mal, quand on a des épreuves. De demander à Dieu, j'aimerais ça de plus en plus apprendre à regarder comment est-ce que je peux te servir et être un disciple de Jésus dans cette situation-là. On peut prier pour que notre amour pour les autres et surtout ceux qui n'ont pas l'Évangile augmente. Prier pour des occasions concrètes de le servir dans toutes les situations où je me trouve, mon travail, mes difficultés, mes relations. La réalité de l'Évangile augmente ma foi et augmente ma joie. John Piper, un autre auteur, a dit, on a été créé pour lui, on a été racheté par lui. On lui appartient doublement. Et c'est dans cette réalité que notre plus grande joie peut se trouver. J'ai trouvé cette semaine le témoignage d'un homme, peut-être que vous avez déjà entendu à propos de cet homme-là. C'est un pasteur américain, iranien, qui est retourné dans son pays pour faire un orphelinat. Son nom, c'est Saïd Abedini. Il a été arrêté le 26 septembre 2012. Il a été condamné à 8 ans de prison et est actuellement incarcéré à Téhéran, en ce moment encore. Il a été soumis à des interrogatoires intenses, des privations de sommeil. Il a été battu à plusieurs reprises. Il a souffert d'une hémorragie interne. Il n'a pas reçu les soins médicaux nécessaires. En prison, il est la cible de menaces de mort en raison de sa conversion. Ça se passe encore aujourd'hui. Et il y avait un blog, et il y a une lettre qu'il a écrite à sa petite fille de 8 ans. Il a dit, « Je sais que tu demandes pourquoi est-ce que malgré toutes les prières, je ne suis pas revenu à la maison. Tu te demandes pourquoi est-ce que Jésus ne répond pas à ma prière et la prière de toutes les personnes sur la terre qui prient pour que je sois libéré de prison et retourné vers toi et notre famille. Dieu est au contrôle de toutes choses et toutes choses arrivent pour sa gloire et va concourir à notre bien. Jésus permet que je demeure ici pour sa volonté. Il y a des gens qui meurent partout dans le monde pour leur foi chrétienne et certains peuvent se demander pourquoi. Mais tu dois savoir que la réponse à pourquoi est qui? C'est pour Jésus. Il en vaut le prix. Et son plan est de se glorifier dans nos vies. Maman et moi avons un grand désir de servir Jésus et nous voulons qu'il utilise pour son royaume et pour sa gloire. Et aujourd'hui, nous payons un prix parce que Dieu qui nous a créés nous a appelés à cela. Alors, je veux que tu saches que la réponse à toutes tes prières, c'est que Dieu est au contrôle. Et il sait mieux que nous ce qu'il fait dans nos vies et partout autour du monde. Ma petite fille, je prie que Dieu va me ramener bientôt à la maison. Mais sinon, on va quand même chanter ensemble Alléluia. Que ce soit ensemble, à la maison ou séparés par les murs de la prison. Et on doit prier pour nos frères, nos sœurs qui souffrent un peu partout dans le monde comme ça. Puis encore une fois, ces témoignages-là, c'est encourageant de voir ça et c'est toujours facile de se comparer, mais le but, c'est d'admirer leur motivation et ce que Jésus peut faire dans la vie d'un disciple de Jésus qui veut s'engager pour lui. Et quand on parle de régénération 21, on parle de viens régénérer ma vie, mon milieu, ma ville, mais on veut être des chrétiens engagés pour la foi, pour l'Évangile, et on veut croire que c'est seulement en s'appuyant sur Jésus qu'on peut arriver à ça, ici à Gatineau. Faire de l'Évangile notre projet de vie, c'est voir avec les lunettes de la foi les occasions de servir Jésus malgré les moments difficiles. C'est chercher à servir Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Je vais inviter les frères qui vont venir à la distribution. Le groupe de louanges aussi peut venir. Et quand Jésus a pris ce repas avec ses disciples pour la première fois, il a dit, chaque fois que vous allez manger mon corps, ce pain qui représente mon corps, que je vais rompre pour vous et que vous allez boire cette coupe qui représente mon sang que je vais verser pour vous, faites-le en mémoire de moi. Et en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Il est mort la mort la plus atroce pour nous réconcilier avec Dieu, pour racheter nos péchés, pour rendre les rebelles que nous étions en fils et filles bien-aimés. Et c'est devant cette réalité qu'on doit constamment nous humilier et demander à Dieu pardon pour nos péchés. Qu'on veut lui demander de diminuer nos affections pour ce qui est trop important dans nos vies et qu'il puisse augmenter notre affection pour lui et pour ce qu'il a fait pour nous. Et on va chanter un chant ce matin. Et après le chant, on veut vous donner du temps. On veut vous donner du temps pour prier dans le silence, pour prendre le temps de considérer ce que Dieu a fait pour vous à la croix, de vous rappeler ce que Jésus a fait pour vous. Prenez le temps de lui confesser, peut-être ne serait-ce une affection que vous voyez qui est trop importante dans votre vie et que vous voulez lui remettre. Prenez le temps de lui remettre ça et de lui demander de faire augmenter son affection pour lui. Et ce matin, on va faire ça un petit peu différent. On veut vous donner le temps de le faire. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez tout simplement prendre le pain, manger et prendre la coupe et boire et juste vous rappeler et prendre un temps avec le Seigneur. On va prendre un chant ensemble avant.
C'est ton sang qui a...